Bien, bien, Monsieur le Secrétaire Général, Mesdames et Messieurs, chers amis, je suis particulièrement heureux et honoré de vous accueillir ici, Monsieur le Secrétaire Général. Et je le fais également au nom de mes collègues ici présents, les chefs des inspections des Affaires étrangères, des Finances, de l'Administration, ainsi que les vice-présidents du Conseil général de l'Industrie, de l'Énergie et des Technologies. Et du vice-président du Conseil général de l'alimentation, de l'agriculture et des espaces ruraux. Je crois que c'est le bon terme. Nombreux sont parmi nous sont ceux qui vous connaissent, ce qui n'est pas mon cas personnel, je dois dire. Et tous ceux qui vous connaissent soulignent vos qualités de diplomate de haut niveau, ainsi, ça c'est quelque chose de général, vos qualités humaines qui sont unanimement appréciées. Vous avez consacré toute votre carrière à la défense des intérêts de la France, avec toutefois, on va le voir dans un instant, une forte composante dédiée à la construction européenne. Vous avez été, il y a déjà quelques années, deuxième conseiller à la représentation permanente de la France à Bruxelles de 86 à 90, secrétaire général adjoint du SGCI en 1990, directeur du cabinet du ministre des Affaires européennes entre 90 et 93. Directeur de la coopération européenne encore de 97 à 99, ambassadeur et représentant permanent de la France auprès de l'Union européenne de 99 à 2002, et ensuite, pendant 5 ans, directeur du cabinet des ministres des Affaires étrangères, puis ambassadeur de France à Washington de 2007 à 2010. Et plus récemment, donc il y a environ 1 an, vous avez été dépêché à nouveau à Bruxelles pour bâtir une structure entièrement nouvelle, entièrement originale, issue du traité de Lisbonne, le secrétariat général exécutif du service européen d'action extérieure. Alors, lorsque cette invitation vous a été adressée, nous avions à l'esprit, évidemment, le printemps arabe, le conflit israélo-palestinien, le dialogue nord-sud, les relations est-ouest, celles avec la Chine, l'Inde, la Russie, etc., des sujets majeurs pour lesquels votre éclairage sur le positionnement de l'Europe nous semblait particulièrement précieux. Depuis lors, l'actualité s'est enrichie par des dossiers encore plus proches et brûlants. La crise de l'euro bouscule bien des certitudes et nous fait craindre pour l'ensemble de l'édifice européen. Et sur tous ces sujets, nous sommes vraiment impatients de vous entendre. Avant de vous céder la parole, je voudrais vraiment vous remercier au nom de tous de manière très très chaleureuse. Remercier également votre ancienne collaboratrice Alexandra Subremont qui était à l'origine de cette rencontre. Et remercier également Bernard Boucaud, le directeur de l'ENA, qui aujourd'hui encore nous a prêté ses locaux, je crois, adaptés pour cette rencontre. Merci beaucoup, Monsieur le Secrétaire Général. Et sans plus attendre, je vous laisse la parole.
Merci beaucoup. Merci beaucoup, Monsieur l'inspecteur général. Et je suis très honoré d'être là et un peu surpris de l'attention que l'on peut avoir pour l'étrange administration que l'on essaye de mettre en place à un moment où de surcroît, l'Europe est incontestablement en train de traverser une passe assez difficile. Mais je pense que c'est précisément cela qui peut être intéressant d'évoquer avec vous. Selon la formule habituelle, je crois, c'est-à-dire que je vous ennuie pendant un petit moment avec un exposé liminaire, mais je suis ensuite, bien évidemment, à votre disposition pour répondre à toutes les questions, au-delà même de ce qui peut concerner le secteur dont je m'occupe, qui est la politique étrangère et de sécurité. Il est vrai que l'Europe traverse une phase difficile, qui n'est pas d'ailleurs, à mon avis, simplement lié à la crise financière qu'on est en train tous d'observer et qui est en train de prendre un tour, je dirais, presque dramatique à mesure que les conseils européens se succèdent et n'arrivent pas à enrayer la pression des marchés. Mais au-delà de cela, me semble-t-il, il y a deux autres facteurs qu'on perçoit peut-être un peu moins, mais qui sont, à mon avis, tout aussi responsables de cette impression d'une Europe qui est un peu à la recherche d'un nouvel élan. Il y a d'abord incontestablement des institutions européennes qui sont aujourd'hui un peu à la recherche précisément de ce nouvel élan. On a traversé des phases successives où c'était plutôt la méthode communautaire qui avait le vent en poupe, puis ça a été ce qu'on a appelé l'intergouvernemental, c'est-à-dire les États, c'est-à-dire très souvent le tandem franco-britannique qui essayait de mener les choses. Et on voit bien que les deux méthodes ont atteint un peu leurs limites, ce qui était sans doute d'ailleurs assez prévisible, et qu'il faut peut-être aujourd'hui chercher un équilibre un peu entre les deux, et que faute de l'avoir trouvé, on n'est plus que jamais actuellement dans cette phase d'incertitude qui a souvent caractérisé dans le passé les problèmes de l'Europe et l'Europe tout entière. Le deuxième facteur de fond, me semble-t-il, qu'on là aussi on a parfois un peu de mal à mesurer, mais qu'on sent très bien quand on travaille à Bruxelles, c'est qu'au fond, ce monde globalisé dont on se gausse tous les jours a pris de plein fouet le modèle européen, non seulement économique et social, mais je dirais le modèle administratif aussi. Et que face à un monde où de plus en plus la compétition et la concurrence jouent à plein, où l'accélération des événements et la nécessité de répondre extrêmement rapidement est devenue une sorte d'obligation si on veut réussir, on voit bien que là aussi l'Europe peine parce que ce n'est pas du tout dans ses gènes et qu'il lui faut en réalité s'adapter alors qu'elle mène depuis sa création un processus de prise de décision et un processus institutionnel qui est beaucoup plus lent, et c'est naturel parce qu'il est au cœur d'une confrontation entre les États membres et la Commission, d'une confrontation éternelle entre la défense de la souveraineté nationale et les efforts d'intégration. Et tout ça prend de plein fouet actuellement, me semble-t-il, la construction européenne comme peut-être jamais elle n'a subi une expérience de cette sorte. À cet égard, et c'est peut-être ça le plus intéressant, c'était bien tout l'objet du traité de Lisbonne, c'était d'essayer de répondre à l'ensemble de ces défis. Et on voit bien que peut-être, à mesure que le traité de Lisbonne se met en place, les réponses n'étaient pas suffisantes, ou en tout cas certaines d'entre elles méritent d'être adaptées, approfondies, renforcées si nécessaire. C'est un peu dans ce cadre-là que je voudrais vous parler de ce fameux service européen d'action extérieure, puisque c'est l'objet normalement de ma conférence, et vous dire un peu ce que j'en pense et où il en est à l'heure actuelle. Parce que c'était incontestablement l'une des innovations du traité de Lisbonne. C'était à sa manière une façon de répondre à tous les défis qui se posent en matière de politique étrangère et de sécurité, et je dirais même au-delà, en matière d'action extérieure de l'Union européenne. Et il est intéressant aujourd'hui de se demander, 2 ans après, si on a répondu aux attentes. Et si ce n'est pas le cas, qu'est-ce qu'on doit faire en quelque sorte et comment essayer d'améliorer cette réponse pour répondre un peu mieux aux défis qui se posent. En 2 mots d'abord, qu'est-ce que c'est que ce service européen d'action extérieure? Il est en matière de politique étrangère avec la création du poste de haut représentant vice-président de l'Union européenne. Il est l'autre innovation qui a essayé de répondre encore une fois aux nouveaux défis qui se posent en matière extérieure. Il a toujours un triple objectif qu'il faut bien mesurer parce qu'au fond, quand on a compris ça, on a compris déjà beaucoup de choses et en particulier l'ampleur des défis qui se posent. Le premier, c'était d'essayer de donner un peu plus de continuité à la politique étrangère de l'Union européenne. Jusqu'au traité de Lisbonne, la politique étrangère était un curieux assemblage entre une présidence tournante qui tous les 6 mois a changé, un haut représentant, M. Javier Solana, qui essayait de donner un peu de continuité, et d'autre part, un commissaire ou une commissaire aux relations extérieures qui, au sein de la Commission, suivait les affaires relatives à la politique extérieure de l'Union. Et bien évidemment, ce trio avait comme principal désavantage de donner de l'image de l'Union européenne dans le monde, une image fractionnée, divisée, complexe, et qui manquait singulièrement de continuité, puisque les gens passaient, et les présidences tournantes, surtout, passaient tous les 6 mois. Et on avait une situation où, en réalité, tous les 6 mois, une nouvelle présidence donnait ses priorités, qui n'étaient pas les mêmes que celles de la présidence précédente, et on avait comme ça, une espèce de politique étrangère un peu en dents de scie, que M. Solana a essayé tant bien que mal d'aplanir, mais qu'il n'arrivait pas totalement à mener à bien comme il le souhaitait. Avec la mise en place de la haute représentante, Mme Ashton, et du Service européen d'action extérieure, vous avez maintenant une seule personne qui remplace ces trois personnalités qui étaient en place. Et c'est quand même quelque chose de très différent qui nous amène, par exemple, aujourd'hui, quand vous avez une réunion du Quartet, vous savez, c'est cet ensemble qui regroupe Union européenne, Nations unies, États-Unis et Russie, pour essayer de faire avancer le processus de paix. Dans le passé, on répétait souvent, pour ceux qui participaient aux réunions du Quartet, qu'on commençait par 2 heures de discussion entre les trois Européens pour arriver à les mettre d'accord sur la priorité, celui qui prenait la parole le premier, etc. Aujourd'hui, c'est fini. Il n'y a plus qu'un seul ou une seule, en l'occurrence, représentante de l'Union européenne, et ça simplifie quand même beaucoup les choses. Je ne dis pas que c'est la raison pour laquelle le Quartet a retrouvé un peu de vigueur, mais c'est peut-être pas tellement fortuit non plus, et c'est assez intéressant à observer. Continuité, donc, cohérence, d'autre part, et ça, c'est le deuxième élément assez intéressant, c'est-à-dire que désormais, dans ce service européen d'action extérieure, on essaye de regrouper l'ensemble des instruments de l'Union européenne en matière d'action extérieure, c'est-à-dire non seulement la diplomatie classique, la politique étrangère dans ce qu'elle a de plus traditionnel, mais aussi tous les instruments de la Commission européenne qu'elle a développés tout au long des 50 ou 60 dernières années, que ce soit dans le domaine du commerce, dans le domaine du développement et de l'aide au développement ou de la coopération, ou dans d'autres domaines encore comme les transports, l'environnement ou autres. Et cette cohérence, on peut y ajouter aussi les instruments qui relèvent du domaine de la défense et de la sécurité ou de la gestion de crise. Cet ensemble-là forme désormais, fait partie d'une démarche intégrée qui est assez intéressante. C'est presque comme un rêve de ministre des Affaires étrangères d'un État membre qui aurait devant lui une palette d'instruments sur lequel il peut, un clavier sur lequel il peut jouer en permanence. Alors ça, c'est l'idéal, on n'y est pas encore, parce que bien évidemment, ça demande à ce que tout le monde travaille bien ensemble, mais il y a quand même cette potentialité-là qui existe à travers le traité de Lisbonne et qui fait du coup, pour tous nos partenaires de la communauté internationale, qui fait de l'Union européenne un partenaire assez intéressant, parce que en s'adressant à lui, on peut traiter à la fois des questions relatives au commerce, des questions relatives au développement, de la sécurité, de la lutte contre le terrorisme, des questions en matière de changement climatique. Bref, vous avez là, peut-être pas le seul guichet, mais en tout cas un guichet, une porte d'entrée dans l'Europe qui est particulièrement utile pour nos partenaires. Et d'ailleurs, je note que dans les campagnes qui se mènent actuellement à Bruxelles, vous savez, dans ce petit monde recroquevillé sur lui-même, où tous les jours le service où je me trouve essuie les critiques véhémentes de tous les observateurs de Bruxelles, dans ces réunions où je suis, généralement à la fin, il y a quelqu'un qui timidement dans la salle lève la main et demande la parole, et c'est tantôt l'ambassadeur des États-Unis, tantôt l'ambassadeur de Chine, tantôt l'ambassadeur d'Indonésie qui dit « Moi, je suis désolé, mais je suis plutôt content de la nouvelle situation ». Parce que pour mon chef d'État ou pour mon Premier ministre, désormais, il sait à qui s'adresser, il travaille avec des personnes qu'il connaît, qui sont là et qui ne bougent pas, et c'est quand même très très utile pour la bonne marche des affaires. Continuité, cohérence, la troisième chose, c'est la complémentarité. Là aussi, il faut bien comprendre que ce qui se passe avec ce nouveau service d'action extérieure, c'est non pas la mise en place d'une politique unique, une politique étrangère unique, pas du tout. Les États membres conservent bien évidemment leur diplomatie. C'est plutôt d'essayer de mettre en place quelque chose qui est complémentaire et qui apporte une valeur ajoutée. Ça peut paraître extrêmement théorique comme ça quand on ne le vit pas au quotidien, mais je peux vous assurer que quand on est à Bruxelles, en plus après avoir, comme cela a été mon cas pendant de nombreuses années, servi dans la diplomatie d'un État membre, les choses sont entièrement différentes. Et on voit très bien que se développe au niveau européen une politique étrangère, une diplomatie qui a sa valeur propre, qui est reconnue comme telle par tous nos partenaires de la communauté internationale. Et il est très intéressant de parler avec un diplomate brésilien ou un diplomate turc qui, lui, perçoit tout à fait la différence entre les deux. Et ça donne, de ce point de vue-là, un atout supplémentaire pour l'ensemble des Européens. J'aurai l'occasion d'y revenir tout à l'heure avec peut-être des exemples plus concrets, mais je voulais déjà planter cette idée-là dans ce court exposé introductif. Qu'est-ce que c'est aujourd'hui le service d'action extérieure? C'est à peu près 1500 personnes à Bruxelles, 2000 environ dans les 130 et quelques délégations que nous avons à travers le monde. C'est un budget de l'ordre de 400 millions d'euros. Ce n'est pas le service le plus important et le plus imposant de la galaxie des administrations européennes, mais on tient déjà à peu près notre rang. C'est un service qui a plusieurs particularités qu'on n'a jamais vues avant. C'est d'abord dans le monde bruxellois où les choses généralement sont assez clairement schématisées. Vous êtes soit du côté de la Commission, et à ce moment-là, vous êtes un Européen qui a des idéaux, qui défend des idées généreuses et qui est combattu par le Conseil de l'autre côté, peuplé d'États membres, forcément vissés sur leurs intérêts nationaux et n'ayant aucun sens de ce que doit être l'idéal européen. Et la bagarre dure depuis à peu près 60 ans entre les deux, dans un climat quand même de bonne amitié, de bonne camaraderie, mais enfin, on est d'un côté ou de l'autre de la frontière et c'est très clair. La particularité du service d'action extérieure, c'est qu'on l'a mis entre les deux, entre ces deux énormes éléphants, et qu'on lui a dit « débrouille-toi et essaye de trouver le compromis idéal et la synthèse entre ces deux ensembles ». C'est donc une tâche qui est loin d'être simple et on le mesure tous les jours quand on doit affronter au quotidien les relations avec ces deux institutions. C'est deuxièmement un service, et c'est encore une particularité, qui est peuplé à la fois de fonctionnaires venus des deux institutions, de la Commission et du Conseil, mais également peuplé de diplomates venus des États membres. Il y a comme objectif, dans les années qui viennent, que le personnel du service soit composé pour un tiers de diplomates venus des États membres. On est déjà en un an arrivé à quelque chose de pas mal, puisqu'on est à peu près tout, si on regroupe tout, les délégations et le quartier général, l'administration centrale à Bruxelles, on est déjà environ à 19% en moyenne de diplomates venus des États membres et qui se trouvent à la fois dans les délégations, mais aussi à l'administration centrale, dans les principaux postes de direction. Et aussi maintenant lentement percolant dans l'ensemble de cette administration. Troisième nouveauté, c'est que on s'est doté d'un réseau donc de délégations de l'Union européenne. C'était avant les délégations de la Commission, mais qui faisaient un métier donc assez strictement limité aux compétences de la Commission, c'est-à-dire pour l'essentiel le commerce et le développement, avec d'autres questions qui venaient s'ajouter en fonction des pays où se situaient ces délégations. Aujourd'hui, on a créé les délégations de l'Union européenne qui sont horosco-références, je ne dois pas le dire parce que certains États membres ne veulent pas en entendre parler, mais c'est en réalité des ambassades qui essayent de se configurer comme sont configurées les ambassades des différents États membres, avec des sections politiques, des chancelleries politiques et si possible tous les instruments d'une action extérieure jusqu'à peut-être dans les mois et les années qui vont venir, ce que l'on appelle chez nous des attachés militaires, mais qui seront peut-être, on trouvera un jargon spécial pour l'Union européenne pour satisfaire tout le monde, des conseillers ou des conseillers militaires ou des conseillers de défense, on verra bien. Mais en tout cas, on s'oriente dans cette voie-là également. Donc vous avez des ambassades qui se mettent en place progressivement, qui s'adaptent et qui doivent du coup se doter de toutes les habitudes de travail, de toutes les méthodes de travail qui sont celles que l'on connaît dans nos ambassades à travers le monde, mais qui n'étaient pas la pratique courante des délégations de la Commission. Je vous donne un exemple qu'on a très bien vu à travers le printemps arabe, c'est que dès que les coups de feu sont apparus au Yémen, en Syrie ou en Libye, pas en Libye parce qu'on n'avait pas de délégation, mais en Tunisie ou en Égypte, La réaction naturelle d'une délégation de la Commission, c'est de mettre la clé sous la porte et de ramener tout le monde à Bruxelles, parce que, et c'était tout à fait naturel, s'occupant avant tout de commerce et de développement, quand on était en face d'une crise, il y avait en quelque sorte suspension de ses activités, il n'y avait aucune raison de rester sur place. Là, il faut habituer tout ce personnel des ambassades, de nos ambassades, de nos délégations de l'Union européenne, à prendre l'habitude de rester sur place, à se configurer pour un temps de crise, mais à rester sur place pour faire toute l'analyse politique nécessaire, pour rester, pour voir ce qui se passe et pour nous faire rapport de manière régulière. C'est donc là encore un exemple assez nouveau de quelque chose qui se met en place et qui n'existait pas encore. Autre exemple, et c'est un point aussi tout à fait important, il n'y avait pas vraiment de gestion de crise à Bruxelles, à part le service d'action humanitaire, ECHO, qui bien évidemment se mettait en place immédiatement dès qu'il y avait une crise, mais pour un objectif très précis, l'aide humanitaire. L'Union européenne, la Commission, voire même les services de M. Solana qui n'étaient pas en nombre suffisant, ne gérait pas la crise comme on peut la gérer par exemple en France, où l'on met en place une cellule de crise dès que vous avez soit une catastrophe naturelle, soit un attentat, soit une prise d'otage, ou des événements politiques comme on l'a vécu récemment dans le monde arabe. Cette culture-là, la culture, je dirais, de la cellule de crise, n'existait pas à Bruxelles. Et nous sommes en train de la mettre en place avec, là encore, une innovation, je dirais deux innovations qui ont surpris tout le monde, c'est-à-dire qu'on travaille en permanence, et que notamment on travaille l'été, même s'il le faut, et même durant le mois d'août. Alors ça, c'est une révolution culturelle immense à Bruxelles que d'être présent au mois d'août. Et au mois d'août, en plein milieu du mois d'août, nous avons pris des sanctions contre la Syrie, et pas n'importe lesquelles. Hein, l'embargo sur les importations de pétrole syrien. On a tenu des réunions du comité politique vers le 15 et le 20 août. On les a réunis presque tous les deux ou trois jours. On en avait la tête qui tournait. C'était considéré comme quelque chose de tout à fait surprenant. Et par ailleurs, on a mis en place une formule de cellule de crise qui fait qu'on réunit autour de la table toutes les différentes directions de ce service d'action extérieure, mais aussi les directions compétentes qui viennent nous appuyer de la Commission européenne, qu'il s'agisse d'ECHO, qu'il s'agisse de la Direction générale du développement, qu'il s'agisse de celle qui s'occupe de l'immigration ou d'autres encore. Et cette pratique-là, qui a eu un peu de mal à être lancée en début d'année, maintenant a trouvé une sorte de rythme de croisière et tout le monde est assez content. Donc il y a là un vrai succès et c'est typiquement le genre de choses qu'il faut arriver à mettre en place aujourd'hui. Je pourrais continuer comme ça, je m'arrête là parce que ça devient un peu fastidieux, mais c'est pour vous donner une petite idée de tout ce qu'il faut faire. En réalité, ce qu'on essaie de créer, c'est une culture administrative nouvelle. Dans un contexte qui n'est pas facile, parce qu'en réalité, on nous a demandé de pratiquement lancer sans beaucoup de préavis ce service et de le mettre en place d'un seul bloc, alors que si vous prenez par exemple une institution comme la Banque Centrale Européenne, on s'est donné du temps pour la mettre en place. On a mis d'abord, comme vous en souvenez, un institut d'émission monétaire qui a mis plusieurs années pour monter en puissance. Et puis quand on s'est senti prêt, et qu'en plus il y avait eu l'accord sur la mise en place de l'euro, on est passé à la Banque Centrale Européenne. Là non, d'un seul bloc, on nous a transféré tout le personnel concerné de la Commission et du Conseil, et on nous a jeté dans l'eau froide en nous disant « nagez et débrouillez-vous comme vous le pouvez ». C'est donc là aussi une méthode qui était assez nouvelle, mais qui a, je pense, pour ma part, le mérite de nous obliger à tout de suite nous adapter, et ça, c'était finalement un réel atout. Quelles sont, à l'heure actuelle, je dirais, les difficultés que rencontre le système? Outre ce que je disais tout à l'heure sur le fait qu'il faut du temps pour marier des cultures différentes et essayer de créer un nouvel état d'esprit, et je pense que c'est une affaire de plusieurs années. Pensez encore une fois qu'on met côte à côte un diplomate slovène, un fonctionnaire hongrois de la Commission, et un fonctionnaire letton du conseil. Ces gens ne sont pas habitués tellement à travailler ensemble, ils ont leurs habitudes, leurs traditions, et donc on le voit dès qu'on leur demande de rédiger des notes, que chacun écrit sa note à sa manière et qu'il n'y a aucune synthèse. Alors soit on repart tous à l'école et on reforme tout ce petit monde-là, ou on essaye au jour le jour, de manière pragmatique, de faire évoluer tout ce monde. Donc, outre cette question de nouvelle culture à mettre en place, les difficultés que l'on rencontre actuellement, c'est bien évidemment, comme je le disais au début, la relation avec les institutions, et plus particulièrement avec la Commission européenne. Parce que plutôt que de faire des doublons, notre souci, si l'on prend par exemple les grandes questions du monde global aujourd'hui, environnement, transport, lutte contre le terrorisme, politique de l'énergie, etc., plutôt que de reconstituer des experts qui nous soient propres et qui coûteraient beaucoup d'argent et ce serait un peu inutile car on entrerait sans doute dans des batailles administratives inutiles, l'idée est plutôt de tirer parti de l'expertise qui existe déjà au sein de la Commission et donc de travailler bien ensemble. Et bien évidemment, ceci ne se fait pas simplement, ceci prend du temps. Et il faut que chacun mette un peu du sien pour essayer d'évoluer dans le bon sens. Donc ça, c'est quand même l'une des difficultés majeures que l'on rencontre à l'heure actuelle, mais qui, je pense, avec le temps, arrivera à se mettre en place. D'autres questions qui se posent et qui se posent de manière forte vis-à-vis de nous, c'est bien évidemment la valeur ajoutée que l'on peut apporter par rapport aux États membres. Et pour cela nécessite de la part de ce service une capacité d'innovation, je dirais, quasi permanente. Et ce n'est pas évident, bien évidemment, tous les jours. C'était peut-être là l'un des avantages de la présidence tournante, le fait que tous les 6 mois, une nouvelle présidence arrivait, elle apportait avec elle une espèce de nouvelle énergie et de volonté de se mettre en valeur. Et presque naturellement, vous aviez du coup des initiatives qui étaient prises, qui essayaient de bousculer un peu tout le monde, parfois d'ailleurs en créant des vrais problèmes, comme je le disais tout à l'heure, en matière de continuité de l'action extérieure. Mais il y avait là une vitalité, une capacité à essayer de bousculer les choses qui était quand même relativement utile. Là, nous sommes en présence maintenant d'un service avec toutes ses qualités, mais aussi forcément ses défauts qui s'installent dans une permanence qui n'est pas toujours facile à faire avancer et à maintenir et à y maintenir toute la vitalité nécessaire. Les États membres sont là, bien sûr, pour nous houspiller, pour nous demander d'avancer, et c'est une bonne chose, et ça nous oblige en permanence à rester attentifs et vigilants. Mais c'est quand même un défi qui, incontestablement, aujourd'hui, se pose à nous. Troisième difficulté, je pourrais en citer d'autres, mais je m'arrêterai là, je prends les plus importantes, c'est bien évidemment la capacité à avoir une sorte de vision stratégique. Et c'est peut-être là qu'est l'élément, le défi, j'allais dire, le plus important, parce que c'est là où l'Union européenne aujourd'hui, j'en reviens un peu à ce que je disais au départ, c'est là où l'Union européenne aujourd'hui doit défendre une vision qui pourrait être utile pour l'ensemble de ses membres, mais qui a besoin d'être définie. Par rapport à l'Asie, par rapport aux grands nouveaux partenaires émergents, Chine, Inde, Brésil et d'autres, on voit bien que l'Union européenne doit trouver en elle la capacité d'inventer un nouveau rôle et de s'adapter au monde qui change. Et là, les États membres, bien sûr, y réfléchissent de leur côté et le font chacun de leur côté, mais nous avons besoin au niveau européen de cette capacité aussi à réinventer un peu le rôle de l'Europe. Au fond, pendant des années et des années, nous avons vécu dans une sorte d'exclusivité de la relation transatlantique, avec à côté quelques autres partenaires avec lesquels nous entretenions des relations, le monde méditerranéen, un petit peu l'Asie et l'Amérique latine. On avait un dialogue régional avec chacun d'entre eux. On développait un peu nos relations commerciales, d'ailleurs souvent assez bien. On développait des zones de libre-échange, souvent un peu dans la difficulté, parce que ça mettait en cause les intérêts des uns et des autres. Mais on était dans un certain confort intellectuel, en réalité. On n'est plus du tout là aujourd'hui. Et pour vous donner un exemple, pour être concret, vous comprendrez tout de suite, c'est un peu tout le défi du monde du printemps arabe aujourd'hui. Parce qu'au fond, qu'est-ce qu'ont fait les Européens quand le printemps arabe a commencé en Tunisie ou en Égypte? Ils ont vu ce phénomène et cette évolution à peu près de la même manière qu'ils avaient vu la chute du mur de Berlin et l'ouverture de l'Europe orientale et centrale. Et ils ont pensé qu'il suffisait de se comporter de la même manière, c'est-à-dire d'aller vers ses partenaires du Sud et de leur proposer le même type de coopération que celui qu'on avait développé avec les pays d'Europe orientale et centrale et qui a conduit à l'élargissement et à l'adhésion de ces pays à l'Union européenne. Mais outre le fait que ces pays du monde méditerranéen n'étaient pas forcément désireux de devenir des membres de l'Union européenne, parce que d'abord ils ne peuvent pas y prétendre, et d'ailleurs on voit qu'ils n'en ont peut-être pas tellement envie, d'ailleurs contrairement à la crainte qu'on pouvait avoir. Mais au-delà de cela, et c'est ce qu'il y a de plus intéressant à mon avis, c'est que ces pays nous ont très très vite dit que c'était le schéma et le modèle que l'on avait mis en place avec les pays d'Europe orientale et centrale n'était pas forcément celui dont ils avaient besoin, et que d'autre part, il ne fallait pas du tout penser une seconde qu'ils étaient dans une relation exclusive avec nous. Ils avaient beaucoup d'autres partenaires de la communauté internationale qui étaient à leur disposition et tout à fait désireux de travailler avec eux. Songez à la Turquie, bien sûr, songez à l'Afrique du Sud, mais songez aussi au Brésil, pensez à la Chine et pensez aussi par exemple à l'Australie qui est actuellement partout dans la zone méditerranéenne. Et tout d'un coup, les Européens découvrent que tout ce modèle qu'ils avaient inventé de coopération et de partenariat avec la Méditerranée est un modèle qui, à tout le moins, demande à fortement actualiser. Et surtout à prendre en compte le fait qu'il y a aujourd'hui une formidable concurrence qui n'est plus du tout ce qu'on pensait avant. Un seul chiffre, et vous comprendrez tout de suite, lorsque les événements de Libye se sont développés et qu'il a fallu pour la plupart d'entre nous évacuer les ressortissants des États membres, les Européens, en liaison les uns avec les autres et en coordination d'ailleurs avec l'Union européenne, les Européens ont évacué 6 000 citoyens de Libye. Les Chinois en ont évacué 25 000 et les Turcs 23 000 à peu près. C'est vous dire déjà, avant même d'avoir commencé à reconstruire la Libye, dans quel rapport d'influence nous nous trouvons. Un autre exemple pour que vous compreniez vite. En Égypte, la Banque mondiale a organisé des ateliers pour tirer parti de l'expérience des différents pays en matière de transition démocratique et pour aider les Égyptiens à essayer de s'y retrouver. Les événements de la place Tahrir à l'heure actuelle montrent qu'on n'est peut-être pas encore arrivé à introduire toutes ces idées, mais en tout cas, c'est assez intéressant d'avoir essayé. Et les gens de la Banque mondiale, en revenant du Caire à Washington, s'étaient arrêtés à Bruxelles et nous avons discuté avec eux. Et ils nous ont dit, vous savez, ce qui était très intéressant dans ces ateliers où nous avons fait venir des représentants des pays d'Europe orientale et centrale, des Polonais ou autres, également des gens d'Amérique latine et d'ailleurs, ceux qui ont eu le plus de succès auprès du public égyptien qui était là, c'était les Indonésiens. C'est évident, pays musulmans, pays de niveau de développement économique et social avec lequel les Égyptiens peuvent sans doute s'identifier. Encore une fois, tel est le sens de mon message, c'est qu'il faut qu'on soit conscient qu'on n'arrive plus en terre conquise, en d'autres termes. Et que donc, il y a tout ça sur lequel il faut réfléchir. Et ça, c'est le sens du service où je me trouve, qu'il faut, et c'est là qu'il faut essayer de faire avancer les choses. Je pourrais continuer, mais je m'arrêterai là, juste pour terminer sur trois choses dont j'espère qu'elles pourraient être des notes d'espoir. C'est quels sont les atouts que l'on peut avoir par rapport à tous ces défis d'une part et à ce contexte extrêmement complexe dans lequel on se trouve et où l'Europe est un peu, comme je le disais tout à l'heure, à la recherche d'un nouvel élan, mais plus généralement à la recherche d'une nouvelle image et d'une nouvelle crédibilité. Parce que aujourd'hui, aller vendre l'Europe dans le monde n'est pas chose facile. Il demeure, et je reviens d'une mission en Amérique latine que j'ai trouvée tout à fait intéressante. Il y a un intérêt encore pour l'Europe en Amérique latine, réjouissons-nous. Et c'est la même chose en Asie et ailleurs. Pourquoi? Je dirais peut-être pour trois raisons. La première, c'est quand même, malgré la crise financière, ne sous-estimons pas totalement ce que représente encore l'économie européenne prise dans son ensemble. près de 25% de la richesse mondiale, un formidable marché de 500 millions d'habitants que tous les pays extérieurs à l'Union convoitent. Il faut voir l'appétit avec lequel tous nos partenaires viennent nous demander en permanence de négocier des accords de commerce avec eux pour leur ouvrir nos marchés. Et donc même si l'Europe est un peu en panne de croissance, même si son modèle économique et social demande très probablement à être revitalisé et mis à jour, on reste quand même un lieu qui est un lieu de formidable attirance et attraction. Et je crois que ça, c'est pas inintéressant et c'est un atout sur lequel il faut miser. La deuxième chose, c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est cette capacité à avoir tous les instruments de l'action extérieure entre une seule main et d'avoir donc cette capacité d'avoir une approche intégrée. Or, si vous regardez toutes les grandes crises du monde à l'heure actuelle, l'Afghanistan, ce qui a pu se passer en Irak récemment, ce qui s'est passé en Libye ces dernières semaines et qui va continuer dans les mois à venir. L'approche intégrée, c'est aujourd'hui la recette du succès, si on sait bien l'utiliser. C'est-à-dire que la puissance militaire ne suffit pas, on le voit tous très bien, on l'a vu en Irak, on le voit aujourd'hui en Afghanistan, et je dirais même, on l'a vu en Libye à mains égards. Il faut être capable, à côté d'une action militaire, si tant est qu'on veut la mener, d'avoir à côté, conjointement, en accompagnement et en suivi, une action dans le domaine civil, en matière de développement, en matière de construction d'un état de droit, d'aide à la mise en place de toutes les administrations dont ces pays ont besoin. On a besoin là d'une expertise qui est précisément l'un des apanages de l'Union européenne. L'OTAN peut venir avec ses troupes, son équipement, elle n'est pas dotée de cette capacité-là. Elle est obligée d'avoir recours aux agences des Nations Unies ou à d'autres, ou souvent d'ailleurs à l'Union européenne. L'Union européenne peut se suffire à elle-même si elle est capable, encore une fois, d'être aussi efficace qu'il faut l'être, ce qui n'est pas toujours le cas. Et donc ça, c'est aussi très important et un atout, à mon avis, tout à fait essentiel. Troisième atout, et je terminerai par là, c'est peut-être le moins palpable, mais c'est celui qu'on sent le plus quand on est à Bruxelles. J'y ai fait allusion tout à l'heure. C'est-à-dire cette petite musique qui est propre à l'Union européenne et qui fait que nos partenaires de la communauté internationale entendent ça très bien et apprécient pas mal. Exemple, la Libye. On a beaucoup apprécié, notamment dans ce pays-ci, l'intervention franco-britannique pour protéger Benghazi et ensuite poursuivre cet effort pour mettre un terme au régime de M. Kadhafi. C'est très bien, mais pour l'Union européenne et pour nous qui travaillons à Bruxelles, je peux vous dire que les échos de cette opération militaire qu'on entendait de la part de nos partenaires des pays arabes, du Brésil, de l'Inde, de la Chine ou de l'Afrique du Sud n'étaient pas du tout les mêmes. Ils étaient beaucoup plus sceptiques, beaucoup plus réservés, pour dire les choses simplement, beaucoup plus critiques. Et ce qui a été très intéressant, c'est que l'Union européenne, elle est beaucoup plus en mesure de recueillir ces échos-là, parce qu'elle apparaît comme une entité, une puissance, une autorité qui n'est pas tout à fait définie ou identifiée à chacun des États membres, mais elle est à part, avec sa propre diplomatie, sa propre couleur, ses propres valeurs en quelque sorte, et ça plaît. Et du coup, avec ces partenaires-là, nous pouvons continuer à avoir un dialogue et à essayer de développer une coopération. Et je trouve que c'est assez intéressant et que c'est là une percée sur laquelle on doit pouvoir insister. Prenez l'exemple actuellement de la Syrie, où on se demande comment agir et tout ça. On voit la Ligue arabe développer actuellement des initiatives assez ambitieuses, assez nouvelles, pour avoir le courage de dire à l'un de ses membres qu'il faut qu'ils arrêtent de massacrer leur propre population, qu'il faut peut-être que leurs dirigeants acceptent de passer la main. Et bien évidemment, on le voit tous les jours, lorsque ceux des États membres qui ont participé à l'opération militaire disent « mais si vous voulez, on peut vous aider », il y a de la part des membres de la Ligue arabe une espèce de réserve naturelle qui est de dire « de grâce ». Laissez-nous faire parce que vous venez avec le passé de la Libye, le passé de l'Irak, le passé de l'Afghanistan, et c'est pas ça qu'on veut, parce que nous, on veut garder le contact avec nos opinions publiques, et il est important pour nous d'apparaître comme des gens qui défendons un certain nombre de principes de non-ingérence, de refus du changement de régime, etc., etc., qui sont des principes assez forts, et qui font qu'ils se sentent plus à l'aise pour discuter avec les responsables de la politique étrangère de l'Union européenne, qu'avec chacun des États membres individuellement. Et ça, je trouve que c'est assez intéressant et que c'est un atout sur lequel nous devons essayer de bâtir une diplomatie ou une action diplomatique intelligente qui bénéficiera à tous les États membres, qui, encore une fois, comme je le disais tout à l'heure, est complémentaire, mais se situe sur un registre un peu différent qui permet de trouver là la valeur ajoutée qui est propre à ce qu'on essaye de faire à Bruxelles. Alors, encore une fois, et je m'arrêterai là, je ne veux pas faire un tableau idyllique, et je pourrais passer des heures, mais je risque de vous ennuyer, à souligner toutes les difficultés de la charge et tout ce qui rend ce travail extrêmement complexe. Mais il me semble qu'il y a là quelques lueurs d'espoir que j'ai voulu vous présenter, ne serait-ce que pour vous rasséréner au moment où vous lisez tous les jours dans les journaux les derniers soubresauts de la crise financière européenne. Il y a peut-être un peu d'espoir quand même à garder vis-à-vis de cette Europe si nous savons la faire avancer dans le bon sens. C'est affaire de volonté, c'est affaire de cohérence avec les États membres, mais il me semble qu'avec un petit peu de volonté de la part de tous, on devrait pouvoir y arriver. Voilà, j'ai été beaucoup trop long et je m'en excuse. Merci.